OK, on va continuer notre étude sur la Genèse. On est rendu au chapitre 22. Chapitre 22, on va le faire tout le chapitre. Tout le chapitre parce que c'est un livre qui... C'est un passage qui se tient tellement. On peut le couper en plusieurs parties, mais je trouve que, dans le fond, le chapitre 22, on peut le faire tout d'une shot, comme on dit. C'est un livre très riche. Alors, si vous levez... On va lire la parole de Dieu, on va lire le chapitre 22 de la Genèse. Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, c'est à la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham s'étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nakhor, ton frère, Uth, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Hazo, Pildash, Jidlash et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a engendrés à Nakhor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tébac, Gaham, Tabash et Mahaka. Le vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement le message d'aujourd'hui « Jéhovah éprouve et prépare son serviteur Abraham ». Alors, on voit là-dedans qu'il y a des épreuves, qui n'est pas une épreuve ordinaire qu'il y a eu là le père des croyants. Alors, je vais diviser le texte en trois parties. La première, de versets 1 à 14, c'est Jéhovah qui éprouve la foi d'Abraham. Dans la deuxième partie, c'est Jéhovah qui prépare le cœur d'Abraham. Et dans la troisième partie, c'est Jéhovah qui prépare le chemin de l'accomplissement de l'Alliance. Et on voit par là que Dieu, après que toutes ces choses-là ont été terminées, il permet qu'ils apprennent la nouvelle que la... et Dieu introduit la future femme d'Isaac, qui est Rebecca. Le Seigneur travaille d'une façon... Il prépare le terrain, comme on dit. Alors, il prépare le chemin pour montrer que l'alliance que Dieu avait faite, elle va s'accomplir. Mais déjà, il prépare que le frère d'Abraham a eu des enfants. Puis parmi ceux-là, il y a Rebecca, qui va être la future femme d'Isaac. Alors, le chapitre 22, c'est un chapitre qui est extrêmement riche d'enseignements. On pourrait passer beaucoup plus qu'un sermon là-dessus, là, parce que c'est très riche. Et c'est une éclatante et démonstration du triomphe de la foi d'Abraham. Et il pointe de façon typologique vers la personne de Jésus-Christ. Autrement dit, si on étudie l'histoire d'aplomb, puis on fait attention à ce que Dieu est en train d'enseigner, il y a plusieurs choses qui ont des rapports avec Jésus-Christ. T'es ton fils, ton unique, couché sur le bois, et le sacrifier, l'Holocauste. Alors, Dieu, dans tous les chapitres de la Bible, il y a toujours quelque chose qui parle de Christ d'une façon directe ou indirecte. Alors, ça, c'est un chapitre qui est particulièrement riche sur cet aspect-là. Quand on veut comprendre qu'est-ce que la... Une chose qui est importante quand on lit un chapitre, souvent, c'est de regarder ce que la Bible dit dans d'autres passages, souvent dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament va souvent être un très grand éclairage sur des passages de l'Ancien. Comme là, on étudie Genèse 22, mais il y a des références à ce passage-là qui sont données dans le Nouveau Testament. Et sont très éclairants, ces messages-là. Alors, on va en regarder trois. Galates 3:16, on a déjà parlé souvent, que la semence, c'est qui? Ou la postérité. Or, Galates 3:16, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'a pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule et à ta postérité qui est Christ. Alors, les promesses ont été faites à Abraham et à la postérité d'Abraham, et Galates 3:16 nous parle de sa postérité comme étant pas uniquement la descendance physique, les enfants qu'il y a eu, des enfants, des sourds, des enfants, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Mais il dit que la promesse a été faite à Abraham et à la semence ou à la postérité, et le Nouveau Testament nous dit qui est-elle, à qui avait été faite la promesse, et à Christ. C'est important. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19, qui se trouve être comme un genre de commentaire du Nouveau Testament sur ce chapitre-là, Genèse 22. Ça dit, par la foi, chapitre Hébreux 11, souvent on l'appelle le chapitre des héros de la foi. Si vous lisez le chapitre 11 d'Hébreux, vous allez voir que tous les grands héros de la foi de l'Ancien Testament sont là présentés. Et ici, dans ces versets-là, 17 à 19, on parle du héros de la foi, qui est Abraham. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut éprouvé, et que celui qui avait reçu les promesses offrit son unique, dont il avait été dit, « C'est en Isaac que ta postérité sera appelée », ayant pensé en lui-même que Dieu pouvait même le ressusciter des morts, et aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, les Écritures nous parlent d'Abraham comme étant un héros de la foi. Il avait la foi tellement intense, tellement puissante, que Dieu lui avait dit que le Messie viendrait par sa semence, par Isaac. Et là, Dieu lui avait demandé de le sacrifier, l'Holocauste, en son fils, en Holocauste, son unique. Imaginez-vous la crise dans la tête de la personne. Tu me dis que le Messie va venir par mon unique, puis tu me demandes de le sacrifier. Il devait avoir un combat terrible dans son esprit. Alors, quand on nous le présente comme étant le père des croyants qui a traversé l'épreuve ultime, si Dieu nous demandait ça, mettons-nous un peu à sa place. On aurait toute une misère à... Alors, il dit aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection? C'est que Dieu, en empêchant, en mettant sa main et en lui disant, « Ne tue pas ton fils, je sais que tu as voulu m'obéir jusqu'à la fin. » à cause de cela, la bénédiction que Dieu fait pour toute la postérité. La postérité, c'est nous. C'est nous. Dieu dit qu'il va nous bénir à cause de l'obéissance d'Abraham, qui est le père des croyants, comme on dit souvent. Un autre passage, c'est dans Jacques 2, versets 21 à 24, qui nous montre que la foi véritable s'exprime toujours par l'obéissance. Quelqu'un qui dit croire en Jésus-Christ ou croire en Dieu et qu'il n'y a pas d'obéissance dans sa vie et que sa foi serait uniquement une foi intellectuelle, juste tout se passe au niveau de la tête et qu'il n'y a pas d'expression de ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie de tous les jours, dans ses membres, dans sa manière de vivre. La Bible dit que cette foi-là, c'est une foi morte. Une foi morte, ce n'est pas de la véritable foi. Il faut de l'obéissance. Alors, ça dit dans Jacques 2, versets 21 à 24, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? » Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ça, dans la tête de Luther, Jacques, il a eu de la misère avec l'épître de Jacques, parce que lui, il a combattu l'Église catholique qui disait qu'on était sauvé par les œuvres. À un moment donné, lui, il a découvert dans Romains que Dieu nous sauvait par la foi. Et Luther avait de la misère avec le livre de Jacques, parce qu'ici, ça dit, « Voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. » C'est vrai que l'homme est justifié par la foi seulement. Mais une foi qui produit des œuvres. Parce que la foi authentique et réelle va toujours produire des œuvres. Et quand elle n'a pas d'œuvres, mais si elle est juste au niveau de la tête, c'est une foi qui est morte. Et la Bible nous dit qu'une foi morte, ce n'est pas de la véritable foi. Alors, il faut se méfier des gens qui disent qu'ils sont des croyants et que toute leur vie démontre, par leurs actes, qu'ils n'obéissent pas à ce que Dieu commande dans les Écritures. Alors, ça peut arriver que des personnes qui professent, la preuve, relisez Matthieu 7, quand Jésus vous met, vous dites ci, vous dites ça, le Seigneur lui dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Alors, quelque part, la foi authentique, véritable, elle s'exprime par l'obéissance. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est que des versets 1 à 14, Jéhovah va éprouver la foi d'Abraham. Ce n'est pas une petite épreuve, là. On s'entend là-dessus, là? Alors, Genèse 22, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Le temps de l'épreuve. Souvent, on porte pas attention aux mots au début de... Ça dit... Après ces choses, il parle de quoi? Quelle chose? Souvent, on lit et on ne se pose pas de questions. Quand il dit « après ces choses », quelle chose qui a été dit avant? Les épreuves qu'il avait eues avec Abimélec et tout cela. Alors, Abraham, la dernière épreuve d'Abraham fut celle où, à la demande de Sarah, il avait renvoyé Agar et Ismaël, son fils, dans le désert. Alors, quand la Bible dit « après ces choses », il faut reculer un petit peu ce qui a été dit auparavant. Des fois, on l'oublie. Parce que surtout, si on commence notre lecture à Genèse 22, puis ça dit « après ces choses », puis on ne prend pas la peine de regarder ce qui a été dit avant. On ne comprend pas ce qui veut dire « après ces choses ». Alors, Abraham avait sorti victorieux de plusieurs épreuves. Je pense que les Écritures nous montrent avec très grande force qu'il n'y a pas une vie de chrétien qui est un véritable croyant qui ne sera pas éprouvée. On a tous, notre foi a tout été éprouvée. Et il n'avait traversé plusieurs, au moins trois, avant la grande épreuve, l'épreuve ultime. Il avait traversé celle des affections naturelles, où dans Genèse 12, il avait dit, Dieu lui avait dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta famille et viens où ce que je te dis d'aller. Et l'autre épreuve qu'il avait eue, c'était l'épreuve d'avoir quitté son neveu Lot quand il avait eu la chicane. Alors, les affections naturelles. Autrement dit, Dieu nous éprouve souvent pour nous montrer que notre foi doit aller au-delà des affections naturelles. Père, mère, frère, enfant, autour de nous. Alors, des fois, notre épreuve, notre foi peut être éprouvée parce que quelqu'un de notre famille qui nous rejette parce qu'on croit. Il faut passer par-dessus. Alors, nous aussi, on peut avoir traversé des épreuves, par exemple, des affections naturelles. Une autre épreuve, ça avait été celle de la raison. Alors, quand il est arrivé, et à 99 ans, sa femme lui a dit, « Va, ma servante, puis tu vas avoir un enfant, puis cet enfant-là. » Alors, c'était vraiment recours à la chair. Autrement dit, sa raison avait de la misère à comprendre que Dieu pouvait lui donner un fils, même si lui était rendu très vieux et sa femme était rendue à 90 ans, puis en plus, était stérile. La raison, là, dans ce temps-là, à travail, elle se dit, « Voyons donc, ça se peut pas, ça. » Alors, il y avait eu à vaincre l'épreuve de la raison. Une autre épreuve, celui qui avait combattu contre les rois. Il était parti avec un très petit nombre d'hommes, mais il avait réussi à tout récupérer les biens. Alors, la raison te dit que quand tu vas te battre contre un plus grand nombre que toi, disons qu'il y aurait 10 gars dehors, puis il dirait, si tu sors, on va te serrer à voler. Je ne serais pas porté à sortir, hein? Parce que la raison me dit, ils sont plus forts que toi. Ils sont 10, toi, tu es tout seul. Alors, la raison, lui, il était un petit nombre, mais il a tout récupéré, les biens de ces personnes-là. Et il y avait eu aussi l'épreuve de la circoncision. Quand Dieu dit qu'il faut que tu circoncis, la raison de Dieu, tu me dis pourquoi tu me demandes ça? Tu sais, la raison, il faut que tu ailles, tu accomplisses, que tu obéisses, sans nécessairement comprendre pourquoi Dieu te demande des choses. Et il y avait eu aussi celle de la volonté propre. Alors, son aventure avec Abimélec et le renvoi d'Agar et d'Ismaël. La volonté propre, c'est que ça nous a dit qu'il n'était pas de bonne humeur quand sa famille a demandé ça. Alors, vaincre la volonté propre, si Dieu lui dit, « Mais écoute ta femme, fais ce qu'elle te dit. » Là, t'écoutes Dieu et non pas... Alors, il avait traversé déjà plusieurs épreuves. Les affections naturelles, la raison, la volonté propre. L'auteur de l'épreuve, on sait que c'est Dieu lui-même. La réponse à l'épreuve, quand Dieu lui parle du passage, qu'est-ce que Abraham dit? « Mais voyons donc, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, ce que tu me demandes là. » Tu sais, il ne s'est pas obstiné avec lui. Il a dit « Me voici » quand Dieu lui a lu. Ça me fait penser, quand je travaillais pour un chrétien à Quaticook, lui, il travaillait pour la compagnie Hull. Les affaires pour sortir le fumier des étables, il y a une chaîne après ça. Hein. Puis, il nous avait emmené à Drummondville visiter l'usine. Parler de l'épreuve, c'est juste une petite illustration. On avait été dans l'usine, puis il nous avait montré que la chaîne qui tire le fumier dehors, ça supporte une pression de 40 000 livres. Tu peux tirer 40 000 livres, puis ça ne causera pas. Mais il voulait nous montrer, dans l'usine, il mettait comme une affaire de vitre, là, puis il mettait la chaîne, puis là, on voyait une affaire. Là, il tirait la chaîne, là, puis là, 40 000 livres, elle pétait. Pow! 40 000 livres, c'est du stock. Alors, quand vous montrez l'épreuve, Dieu nous éprouve, nous aussi. Alors, la nature de l'épreuve n'était pas une petite affaire, était de sacrifier son fils, de l'offrir en holocauste. Un holocauste, dans le temps, c'était, il avait emmené le feu et le couteau. Il fallait que tu sacrifies la personne, il fallait que tu le coupes en morceaux, puis il fallait que tu le fasses brûler. Alors, imaginez. Mais ce qui est intéressant, c'est l'endroit où Dieu lui demande d'aller faire ça. C'est le mont Morija. Le mont Morija, le mot Morija, en hébreu, ça veut dire la manifestation de Jéhovah. Donc, manifester, ça veut dire rendre Jéhovah visible aux yeux de tous. Si vous allez, par exemple, dans le passage du deuxième livre de Chroniques, au chapitre 3, au verset 1, ça nous présente l'endroit où Abraham a fait le sacrifice comme étant l'emplacement du temple de Jérusalem. Vous allez voir les Écritures, des fois, c'est, Quand tu découvres ça les premières fois, tu dis, waouh, il y a quelque chose d'intelligent là-dedans, c'est plus qu'intelligent. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Salomon commença donc à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija. Voyez-vous le lien où il fait le sacrifice est devenu le lieu où on avait bâti le temple. Et on va voir plus tard, je vais vous le montrer, que c'est devenu l'endroit où Christ a été crucifié. Quand on fait les liens, là, ça devient tellement lumineux, ça devient... On voit la perfection des Écritures à travers de tout ça. Alors, les commentateurs bibliques, Arthur Pink et H.L. Wilmington, croient que l'emplacement correspond aussi au mont Golgotha du Nouveau Testament. Donc, si vous prenez l'endroit où Dieu demande de sacrifier son Fils, c'est devenu l'endroit où Dieu a demandé à Salomon de construire le premier temple, et c'est devenu l'endroit où Christ a été crucifié. Si on ne fait pas un lien, là, on a besoin de méditer un peu. Donc, la manière de l'épreuve, on avait vu que dans les Écritures, la première mention, souvent, c'est quand on parle du mot holocauste, c'est la première mention des Écritures du mot holocauste. Alors, la nature de l'épreuve consistait à égorger personnellement la victime, de le couper en morceaux et de le brûler entièrement. Alors, l'acte doit se faire dans un esprit de dévotion à Dieu, en suivant des règles et en demeurant maître de soi. Vous m'en reparlerez. Ça serait de mettre votre fils, votre fille, l'égorger, couper en morceaux, garder ta maîtrise de soi. Pas sûr qu'on y arriverait. Hein? Alors, l'Holocauste est la forme la plus élevée des sacrifices. Si on va étudier, par exemple, le livre de Lévitique, où on parle beaucoup des différentes formes, l'Holocauste est la forme la plus élevée où Dieu dit qu'elle lui est d'une agréable odeur. Bien sûr, tout ça pointe vers le fait que Dieu le Père lui-même a donné son Fils unique qui, lui, s'est offert en sacrifice, en Holocauste pour nous. Alors, on voit de versets 3 à 10 que, après ce que Dieu lui a dit, il n'hésite pas, il prend ses serviteurs et il s'en va avec eux et il s'en va accomplir ce que Dieu demandait. Mais ce que les Écritures ne nous disent pas, c'est probablement le combat mental qu'il avait à l'intérieur de la tête. Il devait en avoir tout un. Écoute, tu me dis que le Messie va venir par mon fils, puis tu me demandes de le tuer. Y a-t-il quelque chose de logique là-dedans? Alors, il devait avoir un combat terrible dans sa tête. Alors, il obéissait à l'ordre divin. Cependant, ça comprenait beaucoup de grandes difficultés dans l'esprit d'Abraham. La première, c'est la légalité de la chose. Dieu me demande de tuer une personne. Alors, dans sa tête, il dit, voyons, c'est quoi ça? Après ça, ce qu'on appelle un filicide. Un homicide, c'est quand tu tues quelqu'un, mais un filicide, c'est quand tu tues ton propre enfant. Tu tues ton fils ou ta fille. Un filicide. Tu me demandes de tuer, puis en plus, mon propre enfant, celui qui est unique, celui par lequel tu as dit que le Messie arriverait. Alors, bien entendu, puisque les raisons pourquoi Dieu lui demande ça ne lui sont pas données, ça semblait, dans sa tête à lui, inconsistant avec la promesse. Et il devait y avoir aussi tout le côté injustifiable d'obéir à la chose devant sa femme, devant sa famille, devant les personnes qui connaissaient son clan, ses voisins. Alors, on voit, il y a plusieurs caractéristiques à l'obéissance d'Abraham dans le texte. Il y a l'obéissance immédiate, dans le verset 3. C'est quelque chose de préparé, de personnel, quelque chose de conforme à ce que Dieu lui demande. Dans le verset 4, c'est une obéissance éprouvante, parce que souvent, on oublie dans le texte qu'il y avait un voyage de 3 jours à faire. Puis pendant 3 jours, là, la tête, elle devait y trotter, mais pas à peu près. Verset 5, l'obéissance aveugle et préventive envers les serviteurs. Voyez-vous, il n'a pas voulu mêler, il dit à ses serviteurs, « Demeurez là, moi je vais aller adorer avec mon fils, puis vous autres, demeurez là, je vais revenir. » Dans quel esprit c'était fait? Les ménager. Pas faire ça devant ses serviteurs. Alors on voit que son obéissance avait beaucoup de bonnes caractéristiques. Aussi, une obéissance incitative, il fit porter le bois à son fils. On fait-il un lien? Il fit porter le bois Isaac, et Dieu le Père a fait porter le bois à son fils aussi, Jésus-Christ. Alors, quand on dit des Écritures, tout à quelque part nous parle de Christ. Si on lit le texte, on n'est pas sans faire un lien avec Jésus-Christ. Après ça, une obéissance, verset 7, une obéissance qui vient de sonder. Ton propre fils, t'es rendu, tu as mis le bois sur le dos, tu l'as attaché. Son fils, il dit, « Hey, père, il est où l'Holocauste? Il est où l'agneau? » J'imagine, Abraham devait avoir envie de broyer. Hein? Il est où l'agneau? C'est toi l'agneau. Après ça, l'obéissance confiante, Abraham lui répond, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » N'est-ce pas ce qu'il a fait quand il a envoyé son fils sur la terre? Verset 9, une obéissante qui est commune et consciente, les deux. On dit dans les commentateurs que Isaac avait 27 ans à cette époque-là. Alors, il fallait que le père et le fils s'entendent pour faire ce que Dieu avait demandé. Alors, c'était une obéissance qui était commune des deux et aussi consciente. Tu sais ce que tu es en train de faire là, quand tu as un couteau dans les mains et tu as le feu et tout. Là. Alors, versets 11 à 14, on sait que l'issue qui est arrivée n'était pas nécessairement celui qu'Abraham avait dans l'esprit, lui. Alors, ça dit, « Mais l'ange de l'Éternel cria des cieux. » Alors, c'est sûr qu'il n'a pas dit, « Hey, une petite voix qu'on ne peut pas entendre. » Il a crié des cieux. Et il dit, « Abraham, Abraham! » Et il répondit, « Me voici. » Et il dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva les yeux, regarda, voici derrière lui, un bélier retenu par un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier, l'offrir en holocauste à la place de son fils. Il est intéressant aussi ce qu'il dit, « Abraham appela ce lieu-là Jéhovah Jiré, qui veut dire « L'Éternel y pourvoira ». Encore là, on fait un lien avec le fait que c'est l'Éternel qui a pourvu à l'agneau. L'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Dieu le Père qui permettait ça. De sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel sera pourvu. Donc, dans le verset 11, on voit que Dieu lui amène la délivrance. Plusieurs croient que la voix qui venait du ciel, c'était la voix de Christ lui-même. Alors, la voix qui crie deux fois indique qu'il y avait une urgence. Et on est témoin aussi de l'obéissance attentive d'Abraham. Il y a aussi, verset 12, le témoignage. L'ange de l'Éternel commande à Abraham de ne pas sacrifier l'enfant et témoigne du fait qu'il craint Dieu, en ne lui refusant pas de cette requête de donner son fils unique. L'enseignement du verset 13, le Seigneur enseigne une leçon importante à Abraham. Dieu pourvoira à l'Holocauste. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Père a pourvu à l'agneau de Dieu qui était Jésus-Christ. Alors, l'idée de la substitution, l'agneau est celui qui porte... Et le souvenir... Verset 14, « Le nom donné à ce lieu par Abraham est très significatif. Il peut avoir deux sens. Dans le mot hébreu, dans l'hébreu, là, le mot qui dit « l'Éternel y pourvoira », ça peut avoir le sens de l'Éternel dans le mode actif qu'on dit dans l'hébreu. Moi, là-dessus, je suis pas assez calé, mais je me fie sur ceux qui l'ont écrit. Le sens actif, « l'Éternel pourvoira », ou ça peut vouloir dire aussi « l'Éternel sera manifesté ». Autrement dit, tu vas voir comment Dieu va agir à travers ce que tu vas voir. Alors, l'expression sur la montagne de l'Éternel et il sera pourvu est une expression prophétique, anticipant une future et plus glorieuse révélation de Dieu sur ce même site. Alors, on a vu Morija, le temple, après ça, la crucifixion. Il y a un lien avec le Morija. Il y a quelque chose de fort, de significatif. C'est la première fois que tu prends conscience de ça. Mais quand tu ne sais pas, tu dis, hein, en fait, le temple, ça va aussi un rapport avec Jésus-Christ et la crucifixion elle-même sur le mont Morija. Quand tu fais les trois, tu lis Genèse 22, tu ne le lis plus jamais de la même façon. Parce que tu sais que Dieu est en train de parler de la future manifestation de Jésus-Christ à travers de ça. La deuxième point qu'on va regarder, c'est que Jéhovah prépare le cœur d'Abraham dans les versets 15 à 18. Premièrement, il le récompense pour son obéissance vraiment extraordinaire. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois. Donc, le but du cri de l'ange de l'Éternel fut bien sûr d'arrêter Abraham d'exécuter son fils. Et le but du second cri aura pour objet de démontrer la complète satisfaction divine envers l'obéissance et la fidélité du patriarche. L'affermissement, versets 16 à 18, le Seigneur affermit son serviteur. Et là, le Seigneur lui dit les choses suivantes. Et il dit, « Je jure par moi-même, quand Dieu jure par lui-même, là, il ne peut pas avoir plus sûr que ça. Dit l'Éternel que puisque tu as fait cela, que tu ne m'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai certainement et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Les étoiles des cieux, là, que quelqu'un se met à étudier un petit peu l'astronomie, c'est extraordinaire. Le nombre, je me souviens quand on a fait Genèse 1, là, on avait parlé du nombre, c'est extraordinairement grand. Vous essayerez d'aller compter le sable qui est sur le bord de la mer. Il lui dit que la semence, autrement dit, les croyants qui vont sortir de tout ça, la bénédiction, c'est aussi nombreux que les étoiles du ciel et aussi nombreux que le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors, on assiste ici à une promesse solennelle de l'Éternel. Abraham sera grandement béni quant à sa postérité. Sa postérité, c'était Galates 3:16, Christ. Alors, qui peut comprendre la grandeur numérique des expressions comme les étoiles des cieux et comme le sable de la mer? Si on prend depuis le début de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, le nombre de personnes qui ont été sauvées que Dieu, c'est un nombre très, très, très grand. Alors, le Seigneur, ici, il vient réitérer et répéter des promesses qu'il avait déjà faites à Abraham. Quand il les jure par lui-même, ce serait intéressant d'aller les relire. Genèse 12, Genèse 13, Genèse 15, Genèse 17. Autrement dit, ce n'est pas la première fois qu'il... Mais là, il lui fait une promesse d'une grande solennité. Il est en train de dire ce que j'ai dit, là, sois sûr que ça va arriver. Alors, le verset 17, quand ça se dit « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » C'est un élément nouveau qui est ajouté à l'Alliance. Allez chercher les passages dans Genèse 12, dans Genèse 13, dans Genèse 15 et dans Genèse 17, et le fait que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Autrement dit, c'est la victoire. Dieu te garantit que ta foi va être victorieuse, non seulement sur la terre, mais qu'elle va être victorieuse dans l'éternité. Ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un élément nouveau qui est ajouté à ce qui était déjà dit dans Genèse 12, 15, 13 et 17. Dieu avait dit sensiblement la même chose, mais ici, il vient rajouter un élément, ta foi est victorieuse. Troisième point qu'on va regarder, c'est que Jéhovah prépare le chemin de l'accomplissement de l'Alliance. Alors, quand ça dit Abraham retourna vers ses serviteurs et tout ça, après ça, il dit, après ces choses, on fit rapport à Abraham. Dieu permet que Abraham soit informé que son frère, d'où il était sorti de Mésopotamie, il avait eu des enfants. Et là, Dieu, c'est comme si Dieu voulait nous présenter un autre élément qui va être important dans le développement de l'histoire, c'est la femme d'Isaac. Parce que si vous regardez le texte, dans le verset 23, ça dit « Et Bethuel a engendré Rebecca ». Dieu est en train de préparer le terrain pour te montrer que l'accomplissement, ça va se faire dans le temps, ça va se faire... Mais Dieu est en train de préparer l'esprit d'Abraham, que tout ça, c'est en train... ça continue. Alors, Dieu se sert des événements de la Providence. Beersheba, quand on lit « Abraham demeura à Beersheba », alors, quand il a eu fini son épreuve, il est retourné à Beersheba. Et ce qu'on oublie souvent, c'est la signification de Beersheba, qui veut dire puits discernement. Il est retourné à l'endroit qui s'appelle puits discernement. Et là, il a décidé de demeurer là, et c'est à cet endroit-là que Dieu lui a dit C'est comme si Dieu voulait lui faire voir la suite des choses. Il lui prépare la voie en montrant que sa femme s'en vient, Rebecca s'en vient. Alors, le verset 23 et 24, on montre aussi que Dieu est fidèle dans tout cela et que le Seigneur prépare Abraham aux prochains événements qui vont arriver, qui ouvriront le chemin à l'enchaînement et à l'accomplissement de l'Alliance. Parce qu'on voit, il y a un nouvel élément qui est ajouté, la victoire, et l'autre élément, c'est que Dieu permet par la Providence qu'il soit au courant que son frère a eu des enfants et son fils va marier Rebecca. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Bien sûr, on pourrait en faire beaucoup, beaucoup, mais j'en ai retenu juste quelques-unes, j'en ai retenu deux. La première application qu'on peut faire du texte qu'on étudie aujourd'hui. Une application, c'est autrement dit, il ne faut pas qu'on étudie un texte, qu'on entende un texte, ça nous rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Il n'y a rien de pire que ça. Dieu veut toujours nous enseigner quelque chose et il veut toujours nous transformer, nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ et on apprend des choses dans ce texte-là. Alors, la première application que je vois, c'est que les épreuves de la foi, même une épreuve aussi importante que celle que Dieu te demande de sacrifier ton propre fils, sont nécessaires dans la vie du croyant. Tout à l'heure, on a vu que des fois, on a à vaincre la raison, des fois, on a à vaincre, on a vu, je ne me souviens pas des trois jours, les affections naturelles. C'est vrai qu'on a à vaincre les affections naturelles quand on devient croyant. Et la volonté propre, on a-tu des choses qu'on veut faire selon notre propre volonté? Et souvent, il faut plier et reconnaître. Alors, Dieu se sert des épreuves dans nos vies. Ça a des buts bien précis. Ils sont nécessaires dans la vie du croyant. Chose à savoir, c'est que Dieu sait doser avec sagesse les épreuves dans nos vies et aussi permettre qu'elles arrivent à un moment précis de nos vies. Si Dieu avait demandé ça au début de la vie d'Abraham, sacrifier son fils, il n'aurait probablement pas été mûr. Comme Dieu aussi, dans sa sagesse, permet aussi qu'on ait des épreuves, mais qui sont en proportion directe avec notre degré de foi, avec notre expérience chrétienne. Dieu sait comment doser ça et éprouver ta foi à plusieurs reprises, mais il va toujours en grandissant. Et la dernière n'était pas la plus petite, non. Si Dieu nous demandait une affaire semblable, c'est gros, là. C'est un chapitre à méditer énormément, Genèse 22. On l'appelle le père des croyants, mais le père des croyants, il a été éprouvé, mais pas à peu près. La deuxième application, c'est le Seigneur nous prépare toujours pour plusieurs choses. Il nous prépare pour le salut. Moi, j'ai été sauvé à 33 ans. Pourquoi 33 ans alors qu'il y en a d'autres qui sont sauvés à 12 ans ou à 10 ans? Il y en a qui c'est 60 ans. 33 ans, c'est parce qu'il fallait probablement que le Seigneur me fasse traverser toute une série d'expériences, d'épreuves. Alors, il nous prépare le cœur à la réception de la grâce. Il faut avoir vécu certaines choses que le Seigneur, lui seul, connaît dans quel état on se doit quand on le reçoit. Alors, il nous prépare pour le salut. Il nous prépare pour le service aussi. Si le Seigneur veut que tu le serves, peu importe dans quel... dans l'Église, peu importe, que ce soit comme pasteur, missionnaire, diacre, faire la musique, n'importe quoi. Dieu te prépare pour le service qu'il veut que tu fasses. Dieu aussi te prépare pour la compréhension et l'obéissance qu'on se doit d'avoir à la parole. Quand vous lisez les Écritures, premièrement, faut passer d'un couvert à l'autre, là, commencer. Faut le faire. Il y en a plusieurs, j'en connais plusieurs qui ne l'ont pas fait encore. Un couvert à l'autre. Puis, plus on va la lire, plus on va voir des choses que Dieu veut dans nos vies. Notre compréhension, elle s'élargit et Dieu nous donne la capacité de s'adapter à la compréhension et l'obéissance va en conséquence. Abraham, s'il avait eu ça au début de sa vie, il n'aurait peut-être pas été capable, il n'aurait peut-être pas traversé l'épreuve. Là, il l'a traversé parce qu'il était rendu déjà assez... Il avait été éprouvé, il était prêt. Dieu nous prépare aussi pour nous donner le courage et la persévérance dans l'évangélisation. Souvent, là, quand il est question d'évangéliser, on a peur de faire rire de nous autres, on a peur. Mais il ne faut jamais oublier que ce n'est pas par ton propre courage que tu vas changer les choses. Ah, ben à partir de la semaine prochaine, là, je vais commencer. Tu vas foirer, comme on dit en québécois. Demande au Seigneur de te donner la hardiesse, le courage, pour faire ce que lui te demande de faire. Parce que souvent, Dieu nous demande des choses dans les Écritures où on ne se sent pas à la hauteur et on sent qu'on n'a pas la capacité de le faire. Oh, ben là, tu m'en demandes tout, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Toi, tu n'es pas capable. Quand tu dis « je ne suis pas capable », tu as raison. Toi, tu n'es pas capable, mais le Seigneur peut te rendre capable. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Non, peu importe ce que Dieu te demande, si on sent qu'on n'est pas capable, qu'est-ce qu'il faut faire? Du travail de genoux. Seigneur, je sais que tu me demandes ça. Je ne le fais pas parce que je suis trop heureux. Mais donne-moi ce qu'il faut. C'est lui qui va te le donner. Alors, il donne le courage et la persévérance dans l'évangélisation. Et Dieu se sert des épreuves de nos vies, des expériences de nos vies, et il mélange les bénédictions et les corrections. Si on regarderait l'ensemble de nos vies, on verrait tout ça. Épreuves, expériences, bénédictions, corrections. C'est un savant mélange. Dieu se sert de tout ça pour te faire avancer. Alors, pour nous maintenir sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Gloire à Dieu pour sa sage direction dans nos épreuves, dans notre croissance spirituelle et dans le déroulement de nos circonstances providentielles. Amen. Amen.